Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Bon alors, il faut dire qu'une fois, qu'on est assis, on est tout petit hein, derrière cette estrade. Oui, je suis le lieutenant-colonel Éric Fraissinet, je suis chef de la division de lutte contre la cybercriminalité pour la gendarmerie à Rosny-sous-Bois. C'est une unité qui fait de l'investigation sur Internet, c'est-à-dire qu'on fait quasi exclusivement de la détection d'infractions par rapport aux unités sur le terrain qui travaillent plus sur la base de plaintes. Donc on a la chance à la fois de choisir nos priorités, nos axes d'effort et de répondre plus globalement aux besoins au niveau national en matière de lutte contre la délinquance sur Internet. Alors aujourd'hui on m'a demandé de... Alors j'ai mis un point d'interrogation dans le titre. On m'a demandé de définir un profil type du cybercriminel. D'emblée, il n'y a pas de profil type du cybercriminel. D'ailleurs, on verra quel que soit le domaine. En revanche, il y a effectivement des typologies observées. Donc, je vais essayer de partager un petit peu avec vous quelques réflexions sur ce sujet-là. Dans un premier temps, je dirais que ça dépend de qui on parle. Effectivement, en fonction du type de délinquance, on va avoir différents types de personnes, différents types d'intervenants. Jean-Paul l'évoquait. Oui. Je sais pas, il avait l'air de bien marcher. Donc, en fonction des époques, il y a eu pas mal d'évolutions. Hein. En 15 ans, pour moi, d'observation de ce domaine, on a clairement vu notamment une implication croissante du crime organisé dans la délinquance liée aux technologies numériques, notamment en France, où le crime organisé était très peu présent, très peu actif dans ce domaine, très clairement. Ils sont aujourd'hui les maîtres d'une grosse partie du jeu. Quelle que soit la typologie d'infraction, de fraude, etc., on va avoir plusieurs types d'acteurs différents qui vont participer. Des acteurs directs, des acteurs involontaires, des organisateurs, des financiers, etc. Et donc c'est aussi la difficulté de ces investigations, je crois. Et puis, très clairement, cette dimension internationale, une question qu'on se pose souvent, est-ce que le cybercriminel est en France, est-ce qu'il est en Chine, est-ce qu'il est à l'autre bout de l'Europe, en Afrique, etc. Et donc, je vais essayer de vous donner au travers de quelques exemples une idée un peu plus précise de ce qu'on rencontre dans ce domaine, ou de ce que les collègues rencontrent dans ce domaine. Alors, une des questions ce matin, c'est toi qui l'as posée, c'était sur les types de délinquance qu'on rencontre les plus souvent. Bon, très clairement, aujourd'hui, ce qui est le plus prégnant à la fois en termes de volume et puis d'importance dans l'actualité, c'est ces trois domaines. Les atteintes aux mineurs, hein, ça représente une grosse partie de l'activité des enquêteurs, tout comme au Québec, qui était cité ce matin. Donc pédopornographie essentiellement, mais des atteintes plus directes avec des prédateurs sexuels. Quasiment à égalité quand on regarde les chiffres au niveau national en termes d'activité des services, tout ce qui est lié à l'argent, les escroqueries, les infractions financières de toutes sortes, notamment liées à la carte bancaire. Et les atteintes au système de traitement automatisé de données, qui en volume d'enquête sont encore faibles, mais en complexité, en temps que passent les services dessus, commencent à être de plus en plus importants. Et puis, très clairement, dans l'actualité, depuis cette année, c'est venu sur le devant de la scène, et je pense que c'est enfin une reconnaissance du vrai problème que cela pose, des problèmes de sécurité d'une part, et des problèmes d'infractions qui y sont liés. Bien entendu, on le verra au travers des différents angles que j'ai pris, tout ce qui est atteinte au système de traitement automatisé de données, il n'y a pas que le fait d'atteindre au système qui est important, il y a des infractions connexes telles que la collecte de données personnelles. On le voit dans les exemples tels que Sony et Sega récemment, il s'agit de collecter massivement des données sur des utilisateurs et toutes sortes d'appropriations frauduleuses, il s'agit de faire de l'argent à partir de tout ça. Alors, si on prend ces trois domaines tels que je les ai décrits et les différents types d'acteurs, on peut arriver à un premier schéma tel que celui-ci, où d'abord, je voulais indiquer qu'il y a parfois un lien entre les différents domaines, donc entre les atteintes aux mineurs et des délinquances financières, il y a parfois les mêmes groupes criminels derrière qui font de l'argent par tous les moyens, y compris en commercialisant des contenus pédopornographiques, ou y compris pour les cas les plus extrêmes, en vendant entre guillemets des enfants, même si c'est rare. Ensuite, en matière d'atteinte au système de traitement automatisé de données, de collecte de données personnelles, il y a un lien avec un certain nombre d'infractions économiques et financières. Par exemple, quand on collecte massivement des coordonnées bancaires, des numéros de carte bancaire, etc., ça permet de faire de l'argent. Et les acteurs derrière, très clairement, le crime organisé, donc c'est imposé et est très très présent. Vous verrez que dans pas mal de domaines, on se pose des questions sur les États. Donc je les ai indiqués là sur le transparent, mais il n'y a pas encore de cas avérés intéressants à citer. Et puis, ensuite, il y a tout un tas d'individus qui ont des rôles différents. Beaucoup de techniciens qui aient une formation universitaire, école d'ingénieur et autres, ou qui soient autodidactes. Et évidemment, beaucoup d'auteurs isolés. Notamment en matière d'atteinte aux mineurs, mais même en matière d'atteinte au système de traitement automatisé de données, on verra qu'il y a parfois des personnes qui n'ont aucune compétence particulière et qui se sont lancées dans un certain nombre d'actions illégales de ce type. Alors, si on regarde du côté des atteintes aux mineurs, trois types d'activités, l'échange d'images, les atteintes physiques et le commerce des images, trafic des images, etc., et parfois de personnes dans certaines contrées. Donc il y a des recouvrements entre ces différents domaines, et on voit qu'il y a différentes typologies d'acteurs qu'on peut essayer de décrire, entre les voyeurs d'un côté qui se contentent de télécharger, récupérer des images, les échanger, les abuseurs qui parfois commettent des abus sexuels sur des mineurs, et ceux qui profitent du système, essentiellement du côté du crime organisé, et qui vont essayer de vendre ces objets-là, ces images-là, etc. On a vu, il y a une dizaine de jours, le cas d'une personne qui avait été interpellée à deux reprises, c'est-à-dire sur deux affaires, parce qu'il échangeait des images, et qui était passé à l'acte, et qui est devenu un abuseur d'une jeune fille de 5 ans. Donc c'est le cas qui a été cité dans la presse. Ça arrive de temps en temps, et donc il y a parfois du passage d'un univers à l'autre, mais pas toujours. Il n'y a pas forcément toujours de lien entre les deux types de comportements. Au milieu, il y a ceux qui nous préoccupent le plus, qu'on pourrait appeler producteurs, entre guillemets. Et il y a des producteurs du côté de ceux qui sont... abuseurs, et du producteur du côté de ceux qui ont une démarche commerciale. Ceux qui sont les plus actifs aujourd'hui, il nous semble, sont plutôt ceux qui ont une démarche entre guillemets d'amateur, c'est-à-dire à la maison, avec les enfants qui sont à proximité, etc. Donc notamment, c'est ceux qu'on va rencontrer en France comme type d'acteurs malveillants. Donc on a quatre typologies ici que j'ai essayé de décrire. Pour ce qui est de la dimension internationale, très clairement du côté des échanges, il n'y a pas de frontières, on est sur Internet. Et du côté des abuseurs, c'est plutôt des locaux, même s'il y a des gens qui sont susceptibles de voyager pour commettre ces abus. Si on regarde du côté de ceux qui passent à l'acte ou qui échangent des images, on a vraiment d'abord essentiellement des hommes aujourd'hui. C'est ce qu'on constate. De tous âges, c'est-à-dire ça commence très tôt, dans l'adolescence, jusqu'à un âge assez avancé, tous les milieux sociaux. Et ce qu'on constate, qui est parfois un peu surprenant, une variété de ce que j'ai appelé d'état psychologique, hein, je ne suis pas psychologue, c'est-à-dire qu'on a face à nous à la fois monsieur tout le monde qui dérape, jusqu'à des personnes qui sont complètement malades dont on est parfois très mal à l'aise quand on se retrouve face à eux. Donc on a une variété de situations psychologiques assez variées, aussi bien du côté de ceux qui sont voyeurs que du côté de ceux qui sont abuseurs. Voilà. Donc sur cet univers-là, vous voyez déjà qu'il y a plusieurs typologies, une certaine continuité, hein, il n'y a pas de profil type, on rencontre vraiment une grande variété de personnages et des gens qui sont en mesure de passer d'un univers à l'autre. Il se peut que parmi les profiteurs, il y ait des abuseurs, etc. Si on passe au deuxième domaine, tout ce qui est lié à la finance, là ça devient un peu plus complexe, avec différentes typologies d'infractions. Donc je vais commencer en haut à gauche avec la copie de carte bancaire, hein, le skimming, de copier votre carte bancaire dans un distributeur automatique par exemple. La copie de données bancaires, là c'est des gens qui vont aller les chercher sur les serveurs ou éventuellement les collecter grâce à des logiciels malveillants. Les escroqueries au commerce électronique, hein, le fait que par exemple ces données bancaires soient utilisées pour acheter des biens auprès de marchands sur internet et donc que ces biens soient ensuite revendus dans d'autres pays. Les escroqueries à la nigériane, donc qui consistent au travers de tout un tas de schémas à essayer de convaincre une personne de vous donner de l'argent parce qu'on est malade, parce qu'elle croit qu'elle va participer à un héritage, etc. etc. Et un type d'infraction connexe qui est ce qu'on appelle classiquement le scareware, c'est-à-dire vendre des logiciels qui font croire qu'il y a quelque chose de mal qui se passe sur votre ordinateur et en fait ce logiciel ne sert à rien. C'est des faux antivirus par exemple. Donc si on regarde ces différentes typologies liées à l'univers financier, on a besoin de différents acteurs pour faire tourner toutes ces mécaniques. Typiquement du côté de la copie de carte bancaire, on a des électroniciens qui fabriquent ces objets parfois de façon assez complexe et des gens qui viennent poser les dispositifs. Et donc en France, ce qu'on rencontre, c'est des électroniciens qui sont souvent dans certains pays de l'Est européen, Bulgarie, Roumanie essentiellement, et des poseurs qui viennent de ces pays-là avec le matériel et qui n'ont pas forcément de compétences techniques et qui se contentent d'installer le matériel, de transmettre les données, etc. pour qu'ensuite des personnes au niveau central dans l'autre pays collectent ces données, fabriquent des fausses cartes ou s'en servent sur Internet. Donc déjà trois types d'acteurs de ce côté-là. Dans tout ce qui tourne autour de la copie de données bancaires, de l'escroquerie et de différents schémas d'escroquerie, donc outre une dimension de crime organisé, il y a besoin d'intermédiaires pour transporter l'argent ou pour transporter les biens acquis frauduleusement. Et donc c'est ce qu'on appelle couramment les mules, hein, aussi bien en français qu'en anglais, soit pour transporter de l'argent, que ce soit sur leur compte bancaire ou sous forme d'argent sonnant et trébuchant, et transporter les biens, c'est-à-dire les recevoir à la maison et les réexpédier à l'étranger le plus souvent. Ces mules, aujourd'hui, sont très souvent pas forcément au courant de ce qu'elles font, ou pas forcément conscientes de leur activité illégale ou elles oublient de se rendre compte que c'est illégal et donc sont recrutées là très clairement, très souvent dans la population française. Au départ, il y a quelques années, c'était recruté, ces personnes étaient recrutées parmi l'immigration issue du pays d'où vient le problème. Donc les groupes criminels russes recrutaient des familles russes, les Africains du Nord recrutaient des Africains du Nord, etc. Et maintenant, ça s'est complètement mélangé. Tout un chacun peut recevoir dans sa boîte aux lettres une offre d'emploi et se retrouver dans ce genre de schéma à voir transiter par son compte bancaire des sommes ou recevoir à la poste, par la poste des colis à réexpédier. Donc, eux, très clairement, ils sont très souvent complices, intentionnels ou non intentionnels de ces infractions-là. Si on regarde du côté des escroqueries à la nigériane, qui ne concernent pas que les pays africains, hein, qui parfois concernent certains pays européens, ou parfois le Royaume-Uni pour la France, hein, puisque la France, en tout cas, de ce point de vue-là, est quasi systématiquement attaqués depuis l'extérieur sur ces typologies d'escroquerie, sont très souvent des escrocs isolés. S'il y a une dimension d'organisation, c'est peut-être au niveau de la collecte de l'argent, mais très souvent ils sont isolés. Et bien entendu, il y a des regroupements et il y a des formes organisées dans certains pays, comme au Nigeria justement, d'où le nom, où il y a des groupes criminels qui sont spécialisés là-dedans. Voilà. Et ensuite, du côté du scareware, ransomware, c'est le fait d'empêcher votre ordinateur de fonctionner, à moins que vous payiez une rançon, hein, ou votre téléphone mobile. Donc du côté de ces typologies-là, il y a aussi besoin de développeurs, hein, le pendant des électroniciens en matière de copie de carte bancaire. Ces développeurs ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui font les transferts d'argent, que ceux qui sont à l'origine de l'envoi des messages qui permettent les escroqueries, etc. Donc sont souvent des acteurs séparés. Très souvent encore, ces développeurs-là ne sont pas en France. Sur ce type d'affaires, c'est plutôt des pays tels que la Russie, l'Ukraine, etc., qui sont à l'origine de ces faits. Voilà, donc vous voyez une variété encore de types de personnes qu'on rencontre. Ceux qu'on arrive à interpeller en France sont assez variés, hein, puisque les poseurs, même s'ils viennent d'Europe de l'Est, il faut qu'ils viennent poser en France, donc ils se font arrêter. Les mules sont bien évidemment en France ou dans des pays voisins. Les escrocs isolés, parfois, ils se déplacent, y compris depuis l'Afrique, quand il y a beaucoup d'argent en jeu. Du côté des techniciens, électroniciens et développeurs, dans ce domaine-là, en général, c'est très rarement des Français, même si on a quelques cas particuliers avec des Français qui sont à l'origine de développement technique. Alors, j'ai mis une petite case avec les établissements bancaires. Alors, je ne parle pas des banques qui ont pignon sur rue, encore que, mais d'acteurs tels que Liberty Reserve, pour parler des ceux qui posent le plus de problèmes, hein, c'est Liberty Reserve, c'est un intermédiaire qui ressemble à PayPal, mais qui accepte tout un tas de modes d'alimentation de son compte, y compris en argent liquide, hein, vous pouvez passer par des intermédiaires pour mettre de l'argent sur votre compte Liberty Reserve en donnant du cash et ça permet de faire des échanges. Des sociétés comme Western Union, pour qui c'est un gros problème, ces échanges-là, et qui parfois ont parmi leurs employés des gens plutôt qui acceptent quelque argent contre le fait de fermer les yeux sur des documents d'identité qui ne sont pas très... pas très légaux. Donc voilà, sur les escroqueries et infractions économiques et financières, cette grande variété d'acteurs, et hommes, femmes, là il n'y a pas de... Et tous les âges, hein, on a vu des jeunes de 14 ans qui faisaient de la collecte de données bancaires, il n'y a pas de, limite de ce côté-là. Dernier domaine sur lequel je me suis attardé, donc par rapport à ma définition initiale, les atteintes au système de traitement automatisé de données. Vous voyez qu'il y a un lien avec le domaine précédent, notamment du côté du scareware, hein, qui relève des logiciels de type malveillant. les logiciels malveillants, donc toute la typologie de virus, de vers, etc., qui polluent la vie des entreprises et nos ordinateurs personnels. Une variante qui est très active en ce moment et qui constitue l'outil premier de la délinquance... Oui, excusez-moi, vous vouliez poser une question ? Donc les botnets qui constituent un des domaines des logiciels malveillants et qui sont beaucoup utilisés par le crime organisé et qui donc permettent, en étant diffusés sur un nombre important de machines, de commettre à la fois des collectes de données personnelles, des attaques en déni de service, etc. Les accès frauduleux eux-mêmes, ceux qui font l'actualité aujourd'hui avec aussi bien il y a quelques mois au travers du ministère des Finances français, les affaires Sony récentes, etc. Et les attaques en déni de service, c'est-à-dire le fait d'empêcher certains sites de fonctionner. Donc quand on regarde toutes ces typologies, quels acteurs on a, le crime organisé est encore très présent. Notamment du côté de la gestion, de la mise en place, du déploiement de botnets, des attaquants isolés, notamment du côté des accès frauduleux, des développeurs évidemment, des gens qui sont capables de développer donc des logiciels malveillants, des outils pour commettre les attaques, et puis des personnes qui sont parmi les attaquants isolés, mais qui n'ont pas de compétences techniques particulières, qu'on appelle classiquement les script kiddies, donc plutôt des jeunes, mais parfois des moins jeunes, et qui commettent toutes sortes d'attaques avec des outils tout faits qu'ils ont trouvés sur Internet et qui s'échangent. Ils vont jusqu'à mettre en œuvre des botnets ou participer à des botnets. Donc ça, c'est les différents types d'acteurs qu'on rencontre. Comme la motivation de... Les motivations sont assez variées. On retrouve quand même assez principalement l'argent comme motivation de ces actions. Donc, d'où l'implication du crime organisé, y compris du côté des script kiddies, c'est-à-dire des jeunes qui essayent des outils, etc. Très vite, ils s'aperçoivent qu'ils peuvent se faire un peu d'argent. Et donc, ils basculent assez vite. Là-dedans, hein, il y a quelques années, j'avais fait une perquisition chez un jeune de 14 ans. Au départ, il nous disait qu'il s'amusait, puis quand on a gratté un petit peu, on a vu qu'il avait récupéré des identifiants PayPal et qu'il volait un peu d'argent, qu'il s'achetait sa PS3 comme ça, etc. etc. Donc, motivation essentiellement financière, et de plus en plus, on voit poindre, et de toute façon, c'est... comment dire, c'est ce qui était sous-jacent au cours des 20 dernières années, des enjeux stratégiques, que ce soit des enjeux stratégiques de la part d'entreprises, voler des informations sensibles chez un concurrent, ou peut-être d'autres États, avec toujours la même question que je posais au départ. Si on regarde du côté de la géographie, il y a du travail en France dans ce domaine, notamment du côté des attaquants isolés et des script kiddies, assez peu du côté des développeurs, des développeurs d'outils malveillants. C'est éminemment international comme délinquance, mais parfois très local. Et quand on dit local sur Internet, c'est pas forcément dans le même département ou dans le même pays, mais très proche. Des entreprises, par exemple, qui sont concurrentes et qui vont recruter telle personne qui va leur permettre d'avoir un accès frauduleux à un système d'information. Ils les font voyager et ça leur permet de collecter ces informations-là. Un dernier acteur que j'ai cité en bas à droite, les chercheurs en sécurité, qui sont une communauté qui à la fois se pose beaucoup de questions dans cet environnement-là parce qu'ils sont parfois mis en cause ou amalgamés avec ce qu'on appelle... vulgairement les hackers, c'est-à-dire ceux qui commettent ces actions-là, et très souvent les outils qui sont développés, les méthodes qui sont développées dans le cadre de la recherche en sécurité sont détournés pour des usages frauduleux. Donc tout un questionnement pour cette communauté-là autour de ça. Voire parfois des basculements du côté négatif des choses. Voilà, donc c'était un balayage assez rapide au travers de trois exemples. Je cite deux sources, un travail qui est mené notamment dans le cadre de l'UNICRI qui s'appelle le Hacker Profiling Project. Donc si vous voulez plonger dans une étude sur le profiling, le profilage des hackers, il y a notamment un premier livre qui a été publié. C'est des travaux sur plusieurs années qui est mené par cette agence des Nations Unies. Donc c'est assez intéressant comme démarche. Et puis j'avais écrit un article l'année dernière pour le STIC sur plan d'action contre les botnets, et plus spécifiquement j'avais décrit les différents acteurs, donc les différents types de profils en matière du problème spécifique des botnets. Donc je vous y renvoie. Merci.